Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur BFM Business en ce mercredi 30 novembre. Je suis ravi de vous retrouver pour vos deux heures de tech quotidienne, 20h, 22h à la radio, à la télé. Bienvenue dans Tech & Co. avec ce soir au menu. Eh bien, on va parler de puissance de calcul et de quantique pour essayer de découvrir de nouveaux médicaments beaucoup plus rapidement sans que ça coûte une fortune. On recevra tout à l'heure un porte-parole de la société Qubit Pharmaceuticals. On découvrira aussi une appli de rencontre qui mise tout sur la géolocalisation, qui s'appelle Appen. Sa présidente sera avec nous. Et puis on évoquera aussi ce concept d'Amazon Future Engineer, mis en place par Amazon pour inciter les jeunes défavorisés ou les femmes à se lancer au codage. Et vous verrez, c'est aussi un sujet très intéressant. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. Deux heures de tech, c'est maintenant, c'est sur BFM Business et c'est Tech & Co. Bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
L'actualité de ce 30 novembre, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir François.
Une actualité comme on les aime.
Exactement.
Bien riche.
Bien riche, bien diverse.
Et on va commencer par une news qui est tombée il y a quelques minutes de cela. Encore une association dans le cloud. Il s'agit d'Atos et d'Amazon, Frédéric.
Exactement, oui. C'est un accord donc entre Atos et Amazon qui a été annoncé en fin d'après-midi aujourd'hui. Donc,
à l'occasion du salon AWS à Las Vegas.
Exactement, du salon organisé donc par Amazon, la filiale Amazon Web Services Cloud d'Amazon. Donc cette annonce a été faite par Amazon et Atos, les deux acteurs. Donc Atos va s'appuyer sur les technologies AWS pour fournir à ses clients, pour faire en sorte que ses clients passent sur le cloud. Donc c'est un partenariat stratégique sur l'externalisation informatique et donc la transformation des centres de données qui seront donc gérés par AWS. Alors c'est un accord pluriannuel qui va vraiment s'étendre dans la durée. Atos assure que c'est le premier accord de ce type, en tout cas d'une telle importance en France. Alors bien qu'il y avait eu d'autres partenariats, on y reviendra. En tout cas pour Atos, c'est une manière de rebondir. On sait que la société connaît des difficultés. Elle a dévoilé cette année un plan de cession. La société va être séparée en deux entre les activités plus lucratives et les activités qui le sont moins. Ce plan va mettre du temps. Il devrait être abouti d'ici la fin d'année 2023, selon le calendrier d'Atos. En tout cas, Atos montre qu'il est toujours présent et qu'il veut offrir le meilleur à ses clients avec cet accord d'AWS, qui est un des leaders mondiaux du cloud et accessoirement la filiale la plus lucrative d'Amazon. Donc, c'est un accord de grande importance. On le disait, donc c'est encore une fois un acteur qui se tourne plutôt vers un géant américain du cloud plutôt que d'aller vers nos acteurs à nous. On pense évidemment à OVH. On a Orange, par exemple, qui, avec Capgemini, va lancer son cloud bleu, le cloud bleu
avec Microsoft,
Orange Capgemini, sur des technologies de Microsoft, avec des serveurs cloud de Microsoft. Google, Thales, qui vont lancer Sense aussi, donc le cloud franco-américain, mais toujours sur des technologies américaines. Alors, quid du cloud souverain? Est-ce qu'on aura un cloud français? Alors, théoriquement, oui. Il y a des acteurs français qui se sont associés. La filiale d'Ocapost, la filiale technologique donc de la Poste, s'est associée avec 3D Dassault Systèmes pour la partie logicielle, ainsi que Bouygues Télécom pour la partie télécommunication. Donc, ils vont lancer un cloud souverain. Donc, en France, on sait faire du cloud. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces géants s'appuient plutôt sur des structures américaines qui sont plus développées que nos acteurs locaux pour le moment.
Voilà, et qui sont peut-être aussi plus rassurantes pour les clients. Mais c'est un sujet qu'on évoque.
Plus intéressante niveau tarif aussi. Donc il y a plein d'aspects. En tout cas,
qualité de service et sans doute la qualité de service qualité, aussi. Dans l'actualité aussi, ce chiffre impressionnant, les trois quarts des humains de plus de 10 ans, écoutez bien, ont un téléphone portable.
Exactement.
Les trois quarts des humains sur Terre.
3/4 des humains, 5,3 milliards de personnes ont un téléphone portable. Alors ce chiffre, il ne cesse de progresser. Il a fortement bondi, évidemment, avec le Covid. On le sait, on a dû faire du télétravail, on a dû s'équiper pour travailler à distance. Donc ce chiffre a bondi. Aujourd'hui, il atteint ce niveau record de 5,3 milliards de personnes, c'est-à-dire 66% de la population mondiale. Mais bien sûr, il y a d'importantes disparités. C'est ce que précise...
C'est pas forcément que des smartphones. Ça peut être aussi des téléphones 2G, tout simple.
Ça peut être des téléphones 2G, mais c'est principalement aujourd'hui le principal point d'accès à l'Internet. Ça reste le téléphone. Et l'essentiel de ces téléphones possédés sont aujourd'hui des smartphones. Alors, c'est un rapport de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, qui revient sur ces chiffres, qui explique qu'il y a de fortes disparités, évidemment, entre les pays riches et les pays en développement. Dans les pays riches, Europe, Asie du Sud-Est, Japon, États-Unis, on est à 95% de taux d'équipement sur cette population des 10 ans et plus, contre 49% dans les pays pauvres. Alors, il y a encore trop de gens, précise l'UIT, qui sont encore dans ce qu'ils appellent les ténèbres numériques. Il faut qu'encore démocratiser aujourd'hui l'accès aux télécommunications, l'accès aux abonnements téléphoniques Internet. Et pour ça, il faut que les prix baissent. Les prix médians pour un abonnement smartphone, il est de 1,5% du revenu brut moyen. Ça, c'est au niveau mondial. Mais il est plus bas dans les pays riches et il est à 9%. Il est encore très élevé dans les pays en développement. On pense notamment à l'Afrique. 9%, évidemment, c'est trop cher. Donc, il faut que ce prix tombe à 2%, c'est-à-dire à peu près des niveaux dans les pays occidentaux, pour que l'ensemble de la population soit connectée, ce qui pourrait arriver dans la dizaine d'années qui vient. En tout cas, c'est ce qu'espère l'UIT.
Voilà, et on le souhaite, bien sûr. Dans quelques instants, on va parler de 4G, de 5G, mais je vous invite tout de suite à évoquer les batteries. Vous le savez, peut-être Airbus et Renault veulent faire évoluer les batteries électriques. Les deux groupes ont annoncé aujourd'hui un partenariat afin de développer des batteries plus performantes et plus légères. Vous le savez, c'est un peu l'équation difficile à résoudre. Des batteries qui pourront aussi bien être utilisées dans les véhicules électriques, mais aussi dans les avions. On écoute et on regarde le reportage de Jean-Baptiste Huette.
Pour Airbus et Renault, le défi est de taille. Doubler d'ici à 2030 la densité énergétique des batteries. Sur le papier, il s'agit de passer de la batterie lithium-ion liquide à la batterie solide. Un saut technologique complexe. Des chercheurs du monde entier y travaillent déjà depuis plusieurs années avec des résultats très contrastés. Le groupe Bolloré, par exemple, avec ses Blue Cars, était parvenu à utiliser de telles batteries. Seulement, elles devaient constamment être maintenues à une température de 70 degrés. Renault et Airbus, en tout cas, y croient. Si les deux groupes réussissent leur pari, les avantages seraient considérables. D'abord, un gain de points important, fondamental aussi bien pour les voitures que pour les avions, une autonomie bien plus élevée, des charges plus rapides, une utilisation des ressources naturelles réduites, bref, le Graal. Pour nombre d'experts, cette technologie est à portée de main. Finalement, le plus difficile et le plus long sera de les produire en quantité industrielle à des coûts raisonnables.
Voilà, c'est ça le nerf de la guerre, de l'électrification des véhicules. C'est des batteries plus petites, moins chères, plus légères et toujours plus puissant.
Qui représente l'essentiel de la valeur ajoutée et voilà. Des véhicules électriques, des véhicules de nouvelle génération.
Voilà, et donc il faut saluer cette association entre Airbus et Renault. On va parler maintenant des télécoms et de 4G. La 4G qui va bientôt commencer à décliner au profit de la 5G, Frédéric.
Exactement, oui. La 5G, finalement, c'est un succès au niveau mondial. C'est en tout cas ce qu'assure Ericsson dans un rapport qui estime à 1 milliard d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, on en est à 870 millions, mais ça accélère et ça va très vite. Le nombre d'abonnés au niveau mondial de la 5G. Donc, en à peine 2 ans, la 5G a réussi à convaincre 1 milliard de personnes de s'abonner à ces nouveaux abonnements à très très haut débit. La 4G avait mis 2 ans de plus quand même pour atteindre ce milliard d'abonnés. Alors, ça peut être surprenant. C'est vrai que la 5G, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'usage.
On se demande à quoi ça sert finalement.
À quoi ça sert vraiment la 5G? Pourtant, ça se développe et c'est assez surprenant. Mais alors, Ericsson explique que ça s'explique par la disponibilité d'abord des terminaux. C'est vrai que quand la 5G a été disponible, il y avait un très grand nombre de terminaux qui étaient compatibles, ce qui n'était pas forcément le cas avec la 4G. Aujourd'hui, ce sont par exemple 700 modèles qui sont annoncés ou qui ont été lancés, qui sont disponibles, compatibles 5G.
La quasi-totalité des modèles aujourd'hui sont 5G.
Exactement, oui. Les fabricants de smartphones ont suivi et se sont mis vraiment à jour pour proposer rapidement ces terminaux. Ce qui manque peut-être aujourd'hui, ce sont les services qui utilisent qui exploite pleinement la 5G. En tout cas, voilà, ça progresse très vite. En Europe, on est déjà à 63 millions d'abonnés. Selon Ericsson, eh bien, c'est la France et la Suisse qui ont les meilleures couvertures en 5G. Donc voilà, si vous captez pas très bien la 5G, ben, sachez qu'ailleurs, c'est moins bien que chez nous. Donc on peut s'en féliciter. Voilà, on a 63 millions.
Arrêtez de vous plaindre, en gros, c'est ça. Hein.
Exactement.
Voilà,
Français et Suisses, ne vous plaignez pas. On a une très bonne couverture. En Amérique du Nord et en Asie, on est déjà à 35% d'abonnements 5G. Donc la 5G va continuer à progresser. La 4G, on est à plus de 5 milliards d'abonnés, évidemment, au niveau mondial. Mais on devrait atteindre, selon Ericsson, le pic en fin 2022, hein, d'ici la fin du mois prochain, avant de décliner progressivement. Cette 5G, elle va nous servir à quoi? Alors, principalement, évidemment, à faire de la vidéo, à regarder de la vidéo. Ce sera 80% du trafic 5G, eh bien, qui sera utilisé pour de la vidéo. Ça, ce sera à horizon 2028. Mmh. Ericsson estime qu'on consommera en moyenne 52 gigaoctets de données par mois.
Avec la 5G.
À horizon 2028, avec la 5G. Aujourd'hui, on est à 13 gigas en France. Donc, on va, grâce à la 5G, on va consommer 4 fois plus de données d'ici 2028. C'est en tout cas la prévision d'Ericsson. Reste à savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce que ce seront des données intéressantes? Est-ce qu'on aura du contenu et des applications qui exploiteront vraiment la 5G? Là, on attend les développeurs sur ce sujet.
Après, bon, il faut prendre avec des pincettes cette étude qui est réalisée par un équipementier qui vend des équipements 5G aux opérateurs télécoms.
Donc,
ils vont pas nous dire que la 5G ne marche pas. En fait, en gros, c'est ça. Mais bon, hein, on peut dire qu'ils sont
relativement neutres. Fonctionne assez.
Parfait. Merci beaucoup, Frédéric Bianchi. C'était pour donc l'actualité de ce jour. Vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant. Évidemment, à partir de 22h, vous retrouverez la diffusion de cette émission sur la chaîne Tech & Co, sur les box opérateurs et puis les podcasts audio, replay, vidéo qui vous attendent, bien sûr. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business, à la radio, à la télé. Très bonne soirée, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Je vous présente Robert Marino. Bonsoir Robert.
Bonsoir François.
Président de Qubit Pharmaceuticals. Donc, et vous allez nous parler de cette association avec Nvidia, que l'on connaît au départ, bien évidemment, que les gamers connaissent, hein, puisque c'est la puissance de calcul au départ pour graphique, hein, pour les joueurs. Après, dans les automobiles, enfin voilà, Nvidia, c'est aussi et surtout maintenant de la puissance de calcul. Et alors, un mot quand même sur Qubit Pharmaceuticals avant d'expliquer l'association que vous êtes en train de mener avec Nvidia. Vous êtes une start-up française qui travaille justement sur, on va dire, la recherche de nouveaux médicaments, c'est ça?
Tout à fait. On est ce qu'on appelle une drug discovery company, donc une société dont la mission est de découvrir de nouveaux médicaments. On travaille sur trois domaines, le cancer, l'inflammation et les antiviraux.
Très bien.
Et pour ce faire, en fait, on utilise une plateforme de calcul qui nous permet de reproduire par le calcul le comportement des molécules dans la vraie vie. Donc on fait des jumeaux numériques à la fois d'une protéine ou d'un brin d'ARN dans le corps humain, et on va pouvoir lui présenter des candidats médicaments qu'on a dessinés nous-mêmes avec nos ordinateurs, notre puissance de calcul, et vérifier si l'interaction se fait comme on le désire.
C'est ça qui est incroyable, c'est qu'auparavant, avant que ces jumeaux numériques existent, comment on faisait en fait? C'était des cobayes, c'était souvent des expérimentations qu'on faisait soit in vitro, soit avec des animaux quand elles étaient plus avancées, non?
C'est tout ça à fait. Alors on commençait d'abord par des tests biophysiques, donc on isolait la protéine, on la collait sur une surface, on regardait si ça se liait, puis après vous passez sur les cellules, et puis vous faites des modèles de plus en plus compliqués, vous essayez ensuite de vous passer sur les animaux, sur l'humain. Le process de test sur l'animal et l'humain, aujourd'hui on ne sait pas s'en passer, parce qu'on ne peut pas reproduire ce qui se passe au niveau systémique. Par contre, tout ce qu'on fait avant, l'objectif, c'est de pouvoir le reproduire par le calcul.
Et donc plus rapidement.
Plus rapidement.
Et moins cher.
Moins cher. Et aussi de pouvoir prédire des effets qu'on ne voyait pas avant, comme par exemple l'interaction entre un médicament et puis tout le reste du corps humain. C'est des choses qu'on va pouvoir commencer à faire avec une puissance de calcul accrue. On va pouvoir prédire non seulement si ça marche bien là où on veut, mais aussi si ça ne va pas là où on ne veut pas.
C'est ça, parce qu'aujourd'hui, pour simuler le corps humain et toutes les cellules, on n'y arrive pas, en fait. Il faudrait une puissance de calcul phénoménale.
C'est très clairement monstrueux comme puissance de calcul, mais même si on va plus bas déjà qu'au niveau de la cellule, l'ensemble des protéines ou du matériel qu'il y a dans une cellule, c'est déjà plein de cibles que les candidats médicaments vont pouvoir taper. Et puis en plus, dans ces cellules, on les a un peu partout dans le corps humain, évidemment, on est constitué de cela. Et ce qu'on veut, c'est que quand on donne un médicament, il n'aille pas dans les mauvaises cellules, taper sur les mauvaises protéines. Et donc c'est ça qu'on doit pouvoir modéliser. Non seulement que ça marche là où on veut, mais aussi que ça ne va pas là où on ne veut pas.
Donc on l'a compris, hein, pour vous, l'élément clé, c'est la puissance de calcul. D'où, en fait, cet accord, hein, et cette plateforme que vous avez créée avec NVIDIA. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, tout à fait. L'objectif, en fait, avec NVIDIA, ça a été de construire une machine qui permette de bénéficier à la fois de ce qu'on se fait de mieux en calcul classique aujourd'hui, vous le disiez, les cartes de gamer, mais à l'échelle industrielle, qui donnent énormément de puissance, et aussi de mettre un pied dans la prochaine génération de calcul qui est l'informatique quantique. Et pour ce faire, en fait, on ne va pas faire un saut avec une rupture. Ça ne va pas être classique aujourd'hui, oui, plus quantique demain.
On ne va pas passer du normal au quantique.
Exactement. C'est une transition où les deux types de calculs vont travailler ensemble. Les calculs quantiques vont permettre de résoudre des problèmes mathématiques qu'on ne peut pas résoudre de façon exacte ou efficace avec le matériel actuel. Mais il y a des calculs qu'on peut très bien résoudre aujourd'hui qui ne bénéficieraient pas du tout de la puissance de calcul quantique. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on développe des algorithmes qui bénéficient au mieux de l'ensemble de la puissance de cette plateforme hybride pour être plus rapide, plus précis et moins cher.
Et alors aujourd'hui, ça, vous en êtes où avec cette plateforme, avec NVIDIA ?
Bien, on vient de lancer, donc on a installé notre supercalculateur qui est dans le nord de Paris, qui nous permet déjà de lancer énormément de calculs, et grâce à ce partenariat, on met un pied, on bénéficie de la plateforme CODA d'NVIDIA, qui nous permet déjà aujourd'hui d'émuler les ordinateurs quantiques, à savoir, avec notre ordinateur classique, reproduire les calculs que feront les ordinateurs quantiques qui seront disponibles en production.
Alors, pas avec la puissance qu'il y aura, mais simuler, on va dire, le schéma, en quelque
sorte. Voilà.
C'est ça, hein.
On est capable de reproduire à petite échelle, okay, ce qu'on aura à très grosse échelle d'ici 3 à 5 ans.
À votre avis, alors sans être magicien et nous donner peut-être de faux espoirs, mais vous pensez que cette puissance de calcul va pouvoir faire avancer les traitements médicaux rapidement ?
Alors nous, on voit un énorme impact en fait potentiel de ces ordinateurs quantiques sur plusieurs étapes. Par exemple, on parle souvent du jumeau numérique en médecine, donc oui, la capacité de prédire de façon très exacte la structure d'une protéine et son comportement. La structure, c'est 3D, c'est fixe, mais ce qui est important, c'est comment elle évolue dans le temps. Et en fait, avec plus de puissance de calcul, on va pouvoir faire plus de simulations, multiplier la durée et donc avoir beaucoup plus d'informations et voir des choses qu'on ne voyait pas. Mmh. Il y a des médicaments, par exemple, qui ciblent sur une protéine des poches qui n'apparaissent que très rarement. Et donc pour ça, il faut faire des simulations sur des temps très très longs et c'est très complexe, très cher. Avec le quantique, on va pouvoir les faire plus efficacement, ces simulations.
Et plus rapidement,
exactement.
Et bien voilà, Qubit Pharmaceuticals qui crée avec NVIDIA cette plateforme de calcul la plus puissante au monde pour accélérer justement la découverte de médicaments. Robert Marino, merci.
Merci à vous.
Et rappelons que vous êtes le président de Qubit Pharmaceuticals, start-up française, il faut le signaler. On reste dans, on va dire, l'excellence française, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à un tout autre sujet hyper important, qui représente des dizaines de milliards de business, c'est le dating. Alors évidemment, on connaît Tinder, mais il n'y a pas que Tinder, il y a d'autres applis aujourd'hui qui cartonnent dans le monde du dating, et il y en a une qui est française, qui s'appelle Appen, et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Karima Ben Abdelmalek. Bonsoir Karima.
Bonsoir.
Présidente donc de Appen. Alors, expliquez-nous comment vous révolutionnez le dating justement avec votre appli par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui.
Alors, sur Appen, la particularité, c'est qu'on est l'application de rencontre de la vraie vie. Notre promesse, c'est de faciliter les rencontres dans la vraie vie en toute confiance. Grâce à la géolocalisation et le temps réel, on va vous mettre en relation avec des personnes qui fréquentent les mêmes lieux que vous. Donc, probablement les mêmes bars, les mêmes restaurants, le même supermarché.
Le même métro,
le même trajet, voire même vous habitez peut-être dans le même quartier ou vous travaillez dans la même zone. Et donc nous, on est là pour révéler tout ça à travers l'application et à travers la technologie.
Allez, racontez-nous, donnez-nous un exemple. On est dans le métro, voilà, et puis deux personnes, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe.
Ils se croisent.
Il y en a un qui prend l'initiative d'avoir... Alors, il faut avoir évidemment que les deux aient l'appli Appen. Hein,
oui, il faut utiliser l'application Appen. Ils se croisent dans le métro, ils n'ont pas le temps de s'aborder, ils n'osent pas s'aborder. Vous avez des personnes qui sont timides. Et bien, nous, on est là pour redonner une deuxième chance à ces personnes-là.
Donc, je lance l'appli. Comment ça se passe, en fait?
Et bien, vous allez vous retrouver dans l'application. Vous allez voir le profil de la personne que vous avez croisée. Et vous allez pouvoir entrer en contact contact avec cette personne, donc soit via la messagerie, soit lui envoyer un petit like pour lui montrer votre intérêt.
Ouais, c'est intéressant parce que c'est bourré de technologie tout ça. C'est quoi? C'est le GPS, c'est du Bluetooth, du Wi-Fi? Comment ça fonctionne pour avoir une géolocalisation comme ça?
C'est une géolocalisation qui est basée sur la 3G. Donc on se base sur
Les réseaux mobiles,
la géolocalisation mobile, et on est en temps réel. Donc c'est d'ailleurs ce qui va donner le côté, le petit côté provoquer le destin, la petite spontanéité dont on a besoin aujourd'hui pour se rencontrer. Et donc grâce à ce temps réel, on va remettre un petit peu ce côté spontané de la rencontre et aussi réintégrer de l'authenticité, puisque ce qui est important pour nous, c'est vraiment de permettre aux gens de se rencontrer dans la vraie vie et de renouer avec leur vraie vie. Et ça, c'est très important. Mmh. La rencontre locale, la rencontre de proximité. Je pense que les gens ont besoin aujourd'hui de faire des rencontres faciles, rapidement, autour d'eux. Et nous, on est là pour leur offrir cette promesse.
Alors, pour tout vous dire, un collaborateur de BFM Business dont on taira le nom m'a raconté un peu son expérience sur Appen.
Oui.
Il disait que, il nous racontait tout ce que vous le racontez. Il disait en plus qu'il y avait un aspect ludique avec des petits jeux le matin, de matching, justement, des choses comme ça. Il y a aussi un aspect ludique. Cet aspect ludique est important aussi dans l'appli?
Oui, alors je dirais plutôt, c'est plutôt la rencontre décomplexée. Je pense qu'on est là aussi pour enlever cette pression qu'il y a autour de la rencontre et de faciliter les rencontres de manière totalement décomplexée, avec un aspect un peu... je n'irais pas dire jusqu'au jeu, parce que je pense que c'est vraiment... La rencontre, c'est quand même quelque chose de
sérieux. Un aspect ludique, on va dire.
Mais un aspect ludique, décomplexé. D'accord. Et on est là un peu pour mettre un peu de fun dans la rencontre à travers cette technologie. Qui est une technologie qui a été développée Appen a été lancée en 2014 qui, je crois, en tout cas aujourd'hui, a fait ses preuves, puisqu'on compte 120 millions d'utilisateurs inscrits dans le monde, et en particulier en Europe, en Amérique latine, puisqu'au Brésil on compte aujourd'hui
20 millions
d'utilisateurs inscrits.
En Inde aussi,
donc
Turquie, vous avez 30 millions d'utilisateurs en Inde,
et 31 millions d'utilisateurs inscrits en Inde. Donc une entreprise française, mais une application internationale, puisqu'aujourd'hui, on est dans le top 10 des applications de rencontres dans le monde. Donc, on est vraiment parmi les leaders du dating.
Voilà, et puis en plus, pour la deuxième année consécutive, vous faites partie du classement de la French Tech 120. Donc,
tout à fait. C'est une très grande fierté.
Une reconnaissance sympa.
Une très grande fierté, oui. Je pense que notre petite touche française, on en est extrêmement fiers. Et je crois que la fierté aussi de l'ensemble de l'équipe Appen, c'est aussi d'avoir su exporter ce savoir-faire français à l'étranger depuis Paris, puisqu'on a attiré aujourd'hui des talents internationaux à Paris pour pouvoir œuvrer ensemble à apporter cette mission de rencontre authentique. On a dans la maison 18 nationalités qui travaillent pour faire ce développement international.
Alors vous avez un modèle économique freemium, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire gratuitement et utiliser une partie de l'application gratuitement, puis après on paye pour débloquer en fait des fonctionnalités, c'est ça. On voit que malgré tout, le marché du dating est très concurrentiel, très chargé, avec beaucoup de consolidation. Est-ce que vous pensez pouvoir tenir comme ça indéfiniment, tout seul, sur ce marché qui est en train de se consolider avec deux géants?
Vous avez raison, c'est très très concurrentiel, c'est un marché qui se concentre, il y a beaucoup d'applications de rencontres, des géants aussi sur le marché, mais je crois que la force d'Appen, c'est quand même d'avoir su se différencier, d'apporter une offre vraiment différente par rapport à ses concurrents, et d'ailleurs c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans le top 10 des applications de rencontres dans le monde. Donc je crois que on a plus...
Vous n'avez pas besoin aujourd'hui de vous adosser à un grand groupe de dating pour exister, en tout cas.
En tout cas, aujourd'hui, Appen, c'est une entreprise qui est rentable, qui est indépendante, qui connaît la croissance en 2022, qui est solide, qui a un business model qui est résilient. Je crois que les applications de rencontre ont montré, en tout cas pendant le Covid, que leur business model était résilient, parce que les gens ont continué à utiliser les applications de rencontre pour faire des rencontres, mais aussi pour créer du lien social.
Bien sûr.
C'est très important.
Pour toutes les personnes qui restent seules.
Voilà, et donc je crois qu'aujourd'hui, Appen a tous les acquis pour continuer son développement international. à travers le monde.
Et bien voilà, une belle pépite française dans le monde du dating, Appen, qui cartonne, hein, vous disiez 120 millions d'utilisateurs inscrits depuis la création de l'application, créée en 2014. Merci beaucoup Karima Abdelmalek, rappelons que vous êtes la présidente de Appen.
Merci.
Et vous restez avec nous bientôt 20h30 sur BFM Business, l'actu, et on repart bien sûr avec nos invités, toute l'actu tech, chaque soir 20h-22h, à tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
On va parler maintenant mobilité dans Tech & Co avec notre invité et j'accueille Thomas Cotte. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Fondateur et directeur général de Weaver.
Weaver.
C'est comme ça qu'on prononce, créé en 2015. Vous êtes basé dans les Alpes-Maritimes, dans un coin horrible, hein, Sophia Antipolis.
Paradisiaque.
Voilà. On est un peu d'accord, hein. C'était de l'ironie. Merci d'être là en tout cas, Thomas, pour nous parler de Weaver, qui utilise l'intelligence artificielle pour la mobilité, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les transports représentent 30% des émissions de CO2. On va pas tout vous refaire l'histoire, mais évidemment, c'est un secteur très polluant. Comment apportez-vous votre pierre à cet édifice ?
Alors, Weaver, c'est une plateforme numérique de mobilité participative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour la première fois, vous, moi, tout le monde, va pouvoir donner son avis, être entendu par les opérateurs de transport en commun, les villes, les entreprises, sur pourquoi j'utilise pas tel ou tel transport, notamment le transport en commun, pourquoi je prends pas le vélo, pourquoi j'arrive pas à m'adapter, et aussi de ce dont je souffre dans ces transports. Et pour la première fois, cette plateforme, elle va permettre à ces acteurs qui ne disposaient pas de cette donnée aussi précise jusqu'à présent, de l'utiliser pour construire des solutions les plus adaptées et surtout pour conduire le changement, c'est-à-dire savoir ce qui fait la différence entre ce réseau de transport, je l'utilise ou bien je ne l'utilise pas.
D'accord. Alors, vous avez des gros clients, hein, Transdev, la RATP notamment, TPG qui sont les transports publics genevois, Paris-Saclay, la SNCF. Qu'est-ce qu'ils vous demandent en fait ? Donnez-nous quelques exemples justement des travaux que vous faites avec eux.
Bien sûr. Alors, ce qu'ils nous demandent déjà en fait, c'est de servir d'interlocuteur entre les gens et eux et de qualifier les problèmes. On a développé une plateforme qui génère de l'engagement. Le plus dur dans les enquêtes, en général, c'est de faire participer les gens.
Oui.
Avec Weaver, c'est gagnant-gagnant. Je participe, on m'informe sur ce que je peux utiliser comme alternative.
Mais comment je participe, en fait ? Comment je vais rentrer en contact avec vous et avec, la RATP, par exemple ?
Eh bien, c'est une plateforme communautaire, donc c'est un simple lien URL. C'est un site web, en fait, qu'on envoie sur tous les vecteurs, avec un message qui est très clair. Aujourd'hui, vous avez les cartes en main, pour reprendre le slogan de Paris-Saclay, de nos clients, par exemple. Vous décidez. Quand on est sincère et qu'on s'engage réellement à donner la parole aux gens, ils l'utilisent. Il faut remonter des informations. La plateforme est très qualifiée. C'est pas une enquête. Ça prend pas 20 minutes. En 3-4 minutes, on a dit l'essentiel.
Et vous posez quoi comme question, par exemple ?
D'où vous partez et où vous allez, mais surtout quel mode vous utilisez et quelles sont vos pénibilités ? De quoi vous souffrez ? Cette question, on la pose jamais vraiment.
Je marche 10 minutes avant d'arriver au tramway, c'est ça ?
Enfin, et surtout, la chaussée est accidentée ou il y a trop de travaux. Et puis quand je prends le tramway, il est pas à l'heure. Il y a jamais de place dedans. Et puis enfin, à l'arrivée, c'est pas ponctuel. Il y a toujours 3-5 minutes de retard.
Et au mois d'août, la clim marche pas.
Par exemple aussi, exactement. Ce qui fait la différence, ce qui peut faire basculer quelqu'un à prendre sa voiture ou à la garder en tout cas, et ce qui est extrêmement important, cette donnée nouvelle, on l'apporte dans notre plateforme. C'est une donnée nouvelle, on apporte la plateforme pour l'utiliser, que n'avaient pas justement tous ces acteurs jusqu'à aujourd'hui, et on apporte la capacité à revenir vers la personne pour échanger avec elle, vérifier que c'est une bonne idée et qu'elle va prendre le transport une fois qu'on lui proposera cette solution.
Alors, 2/3 des problèmes remontés dans les transports en commun sont les suivants, vous le disiez, fréquence de passage. Donc, pas assez de trams, de bus, de métro, etc.
Fréquemment remonté, oui.
La capacité, on arrive, déjà qu'il n'y en a pas souvent, quand il arrive, on ne peut même pas monter dedans tellement il y a de monde. La ponctualité, les horaires inadaptés, mais tous ces opérateurs de transport savent déjà ces problèmes-là, non ?
Alors, savent déjà ces problèmes-là, oui, mais et quand il faut décider, comment on fait ? Comment on enlève une ligne d'un côté pour la mettre ailleurs ? Comment on fait pour arrêter de voir des bus qui tournent vide une partie de la journée, mais qui sont pleins à craquer au moment où on en a besoin ? Il faut arbitrer. Je reviens sur trois choses. Effectivement, il est urgent d'agir. Crise, 30% de gaz à effet de serre, c'est le transport. À côté de ça, plus de la moitié du budget des collectivités sert à 15-20% des usagers du transport en commun.
Donc c'est pas efficient en fait aujourd'hui.
Il est urgent d'agir, de rendre efficace et de s'adapter. Mais quand vous travaillez sur des flux, que vous construisez des réseaux de bus ou des stations de vélo en regardant juste les flux statistiques, on n'a pas le problème de la personne qui dépose ses enfants à l'école. On n'a pas l'agoraphobie. on n'a pas le problème de la clim qui n'est pas remontée. Et ça, ça change tout. Donc là, pour une fois, cette donnée, elle est là. Avant même de vouloir mettre de nouvelles rames et de proposer plus de places, déjà on fait en sorte que les gens
optimiser ce qui existe
et que ceux qui peuvent y passer y passent. En moyenne, nous on a 25% des utilisateurs de notre plateforme qui sont éligibles au transport en commun, qui pourraient le prendre. Tous ne le prennent pas du tout. Certains conservent bien leur voiture. C'est pas qu'une question de capacité à bord. En soi, on peut serrer si tout le reste ça passe. Mais là, c'est un cumul.
Ouais. Thomas, donnez-nous un exemple justement qui a été pris, en compte par un opérateur et qui avait été remonté par des usagers.
Un exemple très simple, Paris-Saclay et son président se sont engagés concrètement avec nous depuis maintenant plusieurs années. Les cahiers des charges des réseaux bus sont faits en utilisant notamment les données qui sont remontrées très concrètement du terrain.
Par Weaver.
Par Weaver. À l'île de la Réunion également, des opérateurs de transport public aujourd'hui testent des navettes en fonction de ce que les salariés ont déclaré dans des cliniques notamment, pour vérifier si c'est pertinent ou pas de modifier les lignes et de les adapter.
Et bien voilà, ça s'appelle Weaver, l'IA comportementale au service de la mobilité de demain. Merci beaucoup Thomas.
Merci de m'avoir invité.
Thomas Cotte, fondateur et directeur général donc de Weaver. Et vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons découvrir deux startups qui sont incubées par Andilab. Vous savez que régulièrement dans Tech & Co, on met l'accent, un coup de projecteur sur des startups qui aident les personnes en difficulté. C'est dans une minute. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business avec notre rendez-vous sur l'accessibilité et deux startups incubées par Andilab que j'ai le plaisir de vous faire découvrir ce soir. Muriel Colagrande est avec nous. Bonsoir Muriel.
Bonsoir.
Vous êtes la fondatrice et présidente d'Ova Home. Voilà, c'est la rencontre de la musique et du gaming avec la recherche scientifique et vos deux petites manettes qui sont là, qui sont adaptées évidemment à des personnes qui sont en difficulté. On va en parler dans un instant. Et Vincent Chollet est avec nous. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Vous êtes le président de Bonjour Henri,
tout à fait,
créé en 2017 à Montpellier. On va en parler dans un instant, mais laissons la parole à Muriel pour débuter. Vous avez créé une console de jeu d'un nouveau genre qui s'adresse à qui, en fait ? Racontez-nous.
Alors, en effet, c'est une console de jeu, mais une console de jeu audio. Donc, ça va être basé sur le son, la musique.
D'accord.
Et c'est une console de jeu créative et éducative pour les enfants à partir de 3 ans, pour développer tout ce qui va être autour du langage, de l'imaginaire sonore et les compétences aussi pour la lecture.
Alors, c'est intéressant parce que au départ, cette console a été conçue à l'origine pour des enfants qui présentaient des troubles de l'apprentissage. Mmh. Voilà. Mais finalement, maintenant, vous dites que ça va plaire à tout le monde. Et ça s'adresse à tout le monde.
Ouais, c'est ça. Ça va plaire à tout le monde. Donc nous, mais ça va être utile à tout le monde. Et donc c'est ce qu'on appelle la conception universelle native, pardon. Donc on part des besoins les plus importants, on va dire, avec le plus de contraintes. Donc nous, on a travaillé avec des chercheurs, des professionnels de l'éducation, des thérapeutes qui travaillent avec les enfants qui ont des troubles des apprentissages. Donc par exemple dans l'autisme, la dyslexie, les troubles de l'attention. Mais on a toujours fait en sorte que ça soit un jeu qui amuse tous les enfants. Et on se rend compte que tous les enfants ont besoin de stimuler les compétences cognitives pour développer le langage.
Et puis, comme ça s'adresse à tous les enfants, aux enfants, on va dire, normaux, et puis aux enfants qui sont peut-être avec certains troubles,
ouais.
Ce qui fait qu'ils peuvent jouer ensemble, finalement. C'est ça.
Exactement,
qui est top aussi.
Exactement, voilà. Et
alors
ça,
avec certains autres jeux, les enfants qui avaient des troubles étaient exclus, en fait, de ces jeux-là.
Exactement. Il y a vraiment la dimension de jeu inclusive.
Universelle.
Universelle, voilà. C'est ça. Plus qu'inclusive, universelle. Et je peux vous dire que ça amuse même les grands, en fait, finalement.
Alors, racontez-nous comment ça marche, ce Sound Explorer.
C'est assez simple, finalement. On a des manettes, comme des manettes de jeux vidéo, mais avec des capteurs un petit peu particuliers, des capteurs de mouvement, de pression, capteurs de souffle et joystick. Et les enfants, en soufflant, faisant des gestes, vont pouvoir jouer avec les jeux qu'on a développés. Donc, ce sont des manettes connectées. On a toute une collection de jeux sur tablette et téléphone, basée autour du son. Et donc, ils vont pouvoir créer de la musique, créer des histoires interactives.
On a besoin d'un support visuel, malgré tout, ou pas ?
Alors, oui, ça nous sert. En fait, on a traité l'interface de manière très particulière pour qu'elle soit vraiment statique, qu'elle ne surstimule pas la vision. Mais l'écran du téléphone nous sert à afficher des boutons, à afficher les contrôles dans le jeu. Et on peut pratiquement, en effet, retourner la tablette ou le téléphone pour jouer uniquement à l'oreille.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste pour configurer le jeu, mais après, finalement, on n'a même plus besoin de support visuel. C'est simplement avec la manette et les sons qui vont sortir de cette manette qu'on va jouer, en quelque
sorte.
C'est
ça, et ça permet de se concentrer sur les gestes, sur les sons. et de couper la vision. Quoi.
Voilà, vous avez récolté 4 prix en seulement 2 mois. Premier prix de l'entrepreneur EdTech, premier prix des Handitech Trophy, prix coup de cœur du concours Startup Handicap, lauréat de la région Île-de-France. Enfin, on va arrêter là parce que on va croire qu'on est payé, mais c'est bravo. Vous en êtes où aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut trouver ce Sand Explorer?
Alors, on les trouve pour le moment sur notre site. Jusqu'à maintenant, on faisait la conception et la distribution, la commercialisation auprès des professionnels principalement, orthophonistes, psychomotriciens, les écoles. Donc, c'est accessible sur notre site, tout le monde peut l'acheter. Mais là, on est en train de négocier des contrats avec des multinationales pour la commercialisation en Europe auprès des familles.
Très bien. Eh bien voilà.
Ça s'accélère.
Ça s'appelle, donc on le disait, Sand Explorer d'Ovaum.
Oui.
Merci beaucoup Muriel. Muriel Colagrande. Alors, deuxième start-up incubée par Handilab. Donc Vincent, bonjour Henri. Créé en 2017, à Montpellier donc. Tout ça commence par une histoire perso, c'est ça ?
Tout à
avec
fait.
Avec votre grand-père ?
Exactement.
Alors racontez-nous.
Grand-père, donc...
On adore les histoires comme ça, qui débouchent sur commence un nouveau
toujours
service.
Comme ça. Mon grand-père qui s'appelait donc Henri, on n'est pas allé chercher le nom de très loin, bonjour Henri, un peu un hommage pour lui. En fait, mon grand-père et le numérique, en quelques mots, en quelques chiffres, ça donnait ça. 10 minutes pour lire un SMS, 20 minutes pour y répondre, une à deux personnes par semaine qui venaient pour régler les problématiques sur son smartphone.
Et oui. Et je suis sûr que c'était Vincent qui venait à la maison régler les problèmes.
Comment savez-vous? Et on avait surtout plus de 100 appels téléphoniques reçus qui étaient du démarchage commercial ou des emails de phishing. Ça, mon grand-père, il a mis beaucoup d'argent là-dedans, donc on s'est dit stop. C'était très difficile pour lui d'utiliser ses usages du numérique. Et
surtout en prenant de l'âge.
Surtout en prenant de l'âge, avec la vue qui baissait, il était atteint de DMLA. Donc ces petits appareils, les smartphones d'aujourd'hui, ont beau avoir des écrans de plus en plus grands, la densité d'information, elle, augmente avec le temps. Et c'est très compliqué pour eux d'utiliser ces services au quotidien dans une société, il faut le dire, qui se dématérialise de jour en jour.
Voilà, c'est-à-dire que les sens baissaient en qualité, mais on va dire toute l'intelligence, toute la partie cognitive était là, présente. Et donc, comment vous la stimulez, vous, cette intelligence? Et qu'est-ce que c'est que Bonjour Henri finalement?
C'est exactement ça, puisque vous le dites. Pour reprendre le cas de mon grand-père, eh bien, il ne sait plus peut-être voir les papiers devant lui, mais il sait toujours lire. Il a peut-être sa démarche est un peu chancelante, mais il sait toujours où il va. Il entend peut-être moins bien, mais il aime toujours écouter. Mais c'est ça, Bonjour Henri. Bonjour Henri, on est là pour restimuler les capacités cognitives encore actives, pour étendre ses capacités. Voilà l'objectif de Bonjour Henri, redonner les clés de l'indépendance aux personnes âgées en perte d'autonomie.
Alors c'est un assistant vocal.
C'est un assistant vocal.
Comment ça marche?
Alors c'est très simple. Alors Henri n'écoute pas vos conversations à votre insu, donc il faut le solliciter. Contrairement aux assistants vocaux grand public, on le touche une petite
déjà, ça rassurera les personnes qui sont peut-être contre tous ces assistants vocaux. Là, si on ne l'active pas, il n'écoute rien.
Exactement. On est sur la sécurité avant tout.
D'accord.
On n'est pas là pour exploiter les données pour pousser les services d'une marketplace. Non, Henri, il est avant tout là pour redonner les clés d'autonomie à la personne âgée. Donc, il pousse sur la petite tête d'Henri que vous voyez sur l'écran. Il va lui demander, Henri, j'aimerais envoyer un message, ou Henri, j'aimerais appeler mon petit-fils. Et là, une visio va se lancer avec le proche, le petit-fils par exemple, sans que le proche n'ait une quelconque application à télécharger. Elle est là, il est là le secret de Bonjour Henri, c'est que Henri s'adapte certes aux usages des personnes âgées, mais aussi aux proches, puisqu'on ne force pas le téléchargement d'une application. Henri utilise les SMS et les MMS pour échanger des informations.
Alors, je vais être un peu vache, Vincent, mais aujourd'hui, les smartphones font ça. Google a un assistant vocal qui est plutôt performant. Siri marche très bien aussi. On peut demander à Siri à peu près tout et n'importe quoi, il va comprendre. Quel est votre plus?
Et quel est le petit bonus? Eh bien, le petit bonus, c'est que contrairement à tous ces assistants vocaux grand public, comme je dis souvent, nous, on n'est pas là pour pousser mamie dans le Wi-Fi, ni d'ailleurs pour exploiter les données personnelles afin de pousser les services d'une marketplace. On est vraiment là pour l'autonomie, pour lui rendre du service. C'est ça la différence qu'on a avec les concurrents du marché qu'on retrouve chez les GAFAM.
Alors, comment ça se présente? C'est un soft. Bonjour Henri, c'est une tablette, c'est un assistant vocal. À quoi ça ressemble?
Alors, c'est très simple, c'est une tablette qui est posé sur une enceinte et qui est piloté par Henri. Alors, techniquement, Henri, qu'est-ce que c'est? C'est une OS, hein, un petit peu comme Android ou comme iOS.
D'accord.
Henri pilote toute la tablette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'application à télécharger. C'est purement serviciel. La personne âgée demande et Henri va rendre le service.
Donc, et alors, quel type de choses on peut demander à Henri?
Alors, on peut lui demander d'envoyer des messages, d'échanger ou de partager des photos, des vidéos, de gérer un agenda, de faire un petit mémo, de lui rappeler des événements qu'il y a dans la journée.
D'accord.
Et bien sûr, de faire de la visio. C'est vraiment la fonctionnalité la plus plébiscitée aujourd'hui.
Appel d'urgence aussi, au cas où?
Pas encore. On ne fait pas encore d'appel d'urgence. Alors, quand il y a un appel d'urgence, la personne âgée, en général, va appeler un des proches qu'elle a enregistré sur son carnet. Mais on travaille aujourd'hui avec des entreprises qui font ça bien mieux que nous, qui sont des experts dans la téléassistance, pour pouvoir donner ce petit côté d'assistance au produit.
Voilà. Vincent Chollet, président de Bonjour Henri. Il ne faut pas pousser mamie dans le Wi-Fi. C'est la phrase que je retiendrai de ce Tech & Co de ce 30 novembre. Alors là, vous m'avez scotché. C'est très bon. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Vincent et merci Muriel.
Merci.
Voilà, deux startups, on le disait, incubées par Andy Lab. Et tout de suite, direction New York avec Sabrina Cagliozzi.
Tech & Co. What's up New York?
Voilà le retour de Tech & Co avec Sabrina. Bonsoir Sabrina depuis New York.
Bonsoir François depuis Paris.
Eh bien voilà, tu es en visio, mais c'est comme si tu étais à nos côtés Sabrina, tu le sais. Et tu vas nous parler de Resort Pass, qui lève 26 millions de dollars pour nous faire profiter des hôtels de luxe, mais sans y devoir passer la nuit. Alors raconte-nous un petit peu ce que c'est.
Ah oui, alors je ne sais pas si c'était déjà arrivé de t'arrêter sur un site internet d'un hôtel de luxe et de te dire « Oh, ça a l'air quand même bien, j'aimerais
ça
bien
m'est
y
arrivé.
Être. » Eh ben,
ça m'est arrivé.
Grâce à notre start-up, oui, hein, moi aussi, hein, je veux dire la vérité. Grâce à notre start-up du jour, Resort Pass, c'est désormais possible, même pour ceux donc qui n'ont pas forcément les moyens d'y passer la nuit. C'est une start-up qui a été lancée il y a tout juste 6 ans. C'est du Made in New York. Elle vient de New York. Resort Pass qui propose en effet l'option, figure-toi, d'acheter des passes à la journée dans plus de 900 hôtels de luxe à travers le monde. Alors, pense au Ritz-Carlton, au Four Seasons ou autres avec ces passes. Les utilisateurs peuvent en fait accéder tout simplement à tous les services de l'hôtel, hein, la piscine, le spa, l'espace de gym, sans devoir donc rester la nuit pour pouvoir en profiter, donc dépenser ce qu'une chambre de la nuit vaut. Donc, plutôt pas mal. Resort Pass se présente comme une marketplace qui met en contact les utilisateurs et les hôtels en prenant bien sûr hein, au passage une petite commission. La start-up a vu les réservations s'envoler hein, cette année pour ses passes de journée hein, dans le sillage de la fin des restrictions à la pandémie. Hein, les utilisateurs cherchent bien sûr toutes ces expériences après être restés à la maison pendant 2 ans avec une augmentation quand même de 100% donc des volumes de réservation pour ces passes de la journée cette année. Resort Pass travaille donc avec les hôtels pour fixer, déterminer le prix de ces passes à la journée. Par exemple, un pass d'un jour pour utiliser juste une piscine est compris entre 25 et 100 dollars par adulte par jour, donc en fonction bien sûr de l'hôtel. Les enfants payent beaucoup moins cher, voire rien du tout. Au-delà de son offre de marketplace, Resort Pass a également construit un logiciel destiné aux hôtels afin de faciliter bien sûr hein, l'utilisation des passes à la journée. L'intérêt pour les hôtels, c'est une nouvelle source de revenus tout simplement. Depuis son lancement, il y a 6 ans donc, Resort Pass a mis en contact 1,6 million de personnes avec les hôtels partenaires. La start-up opère principalement ici aux États-Unis, mais espère étendre ses griffes un petit peu partout, notamment en Europe et en Asie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont levé de l'argent aujourd'hui, 26 millions de dollars quand même en série B, ce qui porte à 37 millions de dollars le montant levé depuis leur création. Et on notera, cher François, que parmi les investisseurs de la première heure dans cette start-up figurent les actrices Gwyneth Paltrow et Jessica Alba. Donc, petit clin d'œil hein, sur cette start-up qui se jeune pousse de 6 ans, qui est made in New York et donc qui a fait une belle levée de fonds aujourd'hui, 26 millions de dollars.
Ouais, et je suis en train de regarder en t'écoutant le site Resort Pass. Il y a plein de trucs sympas, hein. Ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup Sabrina. Sabrina depuis New York, qu'on retrouvera très très vite, bien sûr. Vous le savez, chaque soir, quasiment, à 20h50. Vous restez avec nous. Deuxième partie de Tech & Co dans un instant, 21h, 22h. Avec au sommaire Amazon qui permet à des personnes qui sont en difficulté ou à des femmes aussi d'apprendre le codage. On en parle dans quelques instants. Et puis ce sera aussi un focus sur la 6e édition de l'IT Week by CITC. On en parlera avec l'organisateur de cette édition et puis deux startups qui seront avec nous sur le plateau de Tech & Co. Mais auparavant, avant tout cela, ça sera Frédéric Bianchi qui me rejoint dans un instant pour toute l'actu tech de ce mercredi 30 novembre. C'est BFM Business et Tech & Co. A tout de suite.
Tech & Co, le JT de la Tech.
L'actualité de ce 30 novembre, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir François.
Une actualité comme on les aime.
Exactement.
Bien riche.
Bien riche, bien diverse.
Et on va commencer par une news qui est tombée il y a quelques minutes de cela. Encore une association dans le cloud. Il s'agit d'Atos et d'Amazon, Frédéric.
Exactement, oui. C'est un accord donc entre Atos et Amazon qui a été annoncé en fin d'après-midi aujourd'hui. Donc,
à l'occasion du salon AWS à Las Vegas.
Exactement, du salon organisé donc par Amazon, la filiale Amazon Web Services Cloud d'Amazon. Donc cette annonce a été faite par Amazon et Atos, les deux acteurs. Donc Atos va s'appuyer sur les technologies AWS pour fournir à ses clients, pour faire en sorte que ses clients passent sur le cloud. Donc c'est un partenariat stratégique sur l'externalisation informatique et donc la transformation des centres de données qui seront donc gérés par AWS. Alors c'est un accord pluriannuel qui va vraiment s'étendre dans la durée. Atos assure que c'est le premier accord de ce type, en tout cas d'une telle importance en France. Alors bien qu'il y avait eu d'autres partenariats, on y reviendra. En tout cas pour Atos, c'est une manière de rebondir. On sait que la société connaît des difficultés. Elle a dévoilé cette année un plan de cession. La société va être séparée en deux entre les activités plus lucratives et les activités qui le sont moins. Ce plan va mettre du temps. Il devrait être abouti d'ici la fin d'année 2023, selon le calendrier d'Atos. En tout cas, Atos montre qu'il est toujours présent et qu'il veut offrir le meilleur à ses clients avec cet accord d'AWS, qui est un des leaders mondiaux du cloud et accessoirement la filiale la plus lucrative d'Amazon. Donc, c'est un accord de grande importance. On le disait, donc c'est encore une fois un acteur qui se tourne plutôt vers un géant américain du cloud plutôt que d'aller vers nos acteurs à nous. On pense évidemment à OVH. On a Orange, par exemple, qui, avec Capgemini, va lancer son cloud bleu, le cloud bleu
avec Microsoft,
Orange Capgemini, sur des technologies de Microsoft, avec des serveurs cloud de Microsoft. Google, Thales, qui vont lancer Sense aussi, donc le cloud franco-américain, mais toujours sur des technologies américaines. Alors, quid du cloud souverain ? Est-ce qu'on aura un cloud français ? Alors, théoriquement, oui. Il y a des acteurs français qui se sont associés. La filiale d'Ocapost, la filiale technologique donc de la Poste, s'est associée avec 3D Dassault Systèmes pour la partie logicielle, ainsi que Bouygues Télécom pour la partie télécommunication. Donc, ils vont lancer un cloud souverain. Donc, en France, on sait faire du cloud. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces géants s'appuient plutôt sur des structures américaines qui sont plus développées que nos acteurs locaux pour le moment.
Voilà, et qui sont peut-être aussi plus rassurantes pour les clients. Mais c'est un sujet qu'on évoque.
Plus intéressante niveau tarif aussi. Donc il y a plein d'aspects. En tout cas,
qualité de service et sans doute la qualité de service aussi. Dans l'actualité aussi, ce chiffre impressionnant, les trois quarts des humains de plus de 10 ans, écoutez bien, ont un téléphone portable.
Exactement.
Les trois quarts des humains sur Terre.
3/4 des humains, 5,3 milliards de personnes ont un téléphone portable. Alors ce chiffre, il ne cesse de progresser. Il a fortement bondi, évidemment, avec le Covid. On le sait, on a dû faire du télétravail, on a dû s'équiper pour travailler à distance. Donc ce chiffre a bondi. Aujourd'hui, il atteint ce niveau record de 5,3 milliards de personnes, c'est-à-dire 66% de la population mondiale. Mais bien sûr, il y a d'importantes disparités. C'est ce que précise...
C'est pas forcément que des smartphones, ça peut être aussi des téléphones 2G, tout simple.
Ça peut être des téléphones 2G, mais c'est principalement aujourd'hui le principal point d'accès à l'Internet, ça reste le téléphone. Et l'essentiel de ces téléphones possédés sont aujourd'hui des smartphones. Alors c'est un rapport de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, qui revient sur ces chiffres, qui explique qu'il y a de fortes disparités, évidemment, entre les pays riches et les pays en développement. Dans les pays riches, Europe, Asie du Sud-Est, Japon, États-Unis, on est à 95% de taux d'équipement sur cette population des 10 ans et plus, contre 49% dans les pays pauvres. Alors, il y a encore trop de gens, précise l'UIT, qui sont encore dans ce qu'ils appellent les ténèbres numériques. Il faut encore démocratiser aujourd'hui l'accès aux télécommunications, l'accès aux abonnements téléphoniques Internet. Et pour ça, il faut que les prix baissent. Les prix médians pour un abonnement smartphone, il est de 1,5% du revenu brut moyen. Ça, c'est au niveau mondial. Mais il est plus bas dans les pays riches et il est à 9%. Il est encore très élevé dans les pays en développement. On pense notamment à l'Afrique. 9%, évidemment, c'est trop cher. Donc, il faut que ce prix tombe à 2%, c'est-à-dire à peu près des niveaux dans les pays occidentaux, pour que l'ensemble de la population soit connectée, ce qui pourrait arriver dans la dizaine d'années qui vient. En tout cas, c'est ce qu'espère l'UIT.
Voilà, et on le souhaite, bien sûr. Dans quelques instants, on va parler de 4G, de 5G, mais je vous invite tout de suite à évoquer les batteries. Vous le savez, peut-être Airbus et Renault veulent faire évoluer les batteries électriques. Les deux groupes ont annoncé aujourd'hui un partenariat afin de développer des batteries plus performantes et plus légères. Vous le savez, c'est un peu l'équation difficile à résoudre. Des batteries qui pourront aussi bien être utilisées dans les véhicules électriques, mais aussi dans les avions. On écoute et on regarde le reportage de Jean-Baptiste Huette.
Pour Airbus et Renault, le défi est de taille. Doubler d'ici à 2030 la densité énergétique des batteries. Sur le papier, il s'agit de passer de la batterie lithium-ion liquide à la batterie solide. Un saut technologique complexe. Des chercheurs du monde entier y travaillent déjà depuis plusieurs années avec des résultats très contrastés. Le groupe Bolloré, par exemple, avec ses Blue Cars, était parvenu à utiliser de telles batteries. Seulement, elles devaient constamment être maintenues à une température de 70 degrés. Renault et Airbus, en tout cas, y croient. Si les deux groupes réussissent leur pari, les avantages seraient considérables. D'abord, un gain de points important, fondamental aussi bien pour les voitures que pour les avions, une autonomie bien plus élevée, des charges plus rapides, une utilisation des ressources naturelles réduites, bref, le Graal. Pour nombre d'experts, cette technologie est à portée de main. Finalement, le plus difficile et le plus long sera de les produire en quantité industrielle à des coûts raisonnables.
Voilà, c'est ça le nerf de la guerre, de l'électrification des véhicules. C'est des batteries plus petites, moins chères, plus légères et toujours plus puissant.
Qui représente l'essentiel de la valeur ajoutée et voilà. Des véhicules électriques, des véhicules de nouvelle génération.
Voilà, et donc il faut saluer cette association entre Airbus et Renault. On va parler maintenant des télécoms et de 4G. La 4G qui va bientôt commencer à décliner au profit de la 5G, Frédéric.
Exactement, oui. La 5G, finalement, c'est un succès au niveau mondial. C'est en tout cas ce qu'assure Ericsson dans un rapport qui estime à 1 milliard d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, on en est à 870 millions, mais ça accélère et ça va très vite. Le nombre d'abonnés au niveau mondial de la 5G. Donc, en à peine 2 ans, la 5G a réussi à convaincre 1 milliard de personnes de s'abonner à ces nouveaux abonnements à très très haut débit. La 4G avait mis 2 ans de plus quand même pour atteindre ce milliard d'abonnés. Alors, ça peut être surprenant. C'est vrai que la 5G, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'usage.
On se demande à quoi ça sert finalement.
À quoi ça sert vraiment la 5G? Pourtant, ça se développe et c'est assez surprenant. Mais alors, Ericsson explique que ça s'explique par la disponibilité d'abord des terminaux. C'est vrai que quand la 5G a été disponible, il y avait un très grand nombre de terminaux qui étaient compatibles, ce qui n'était pas forcément le cas avec la 4G. Aujourd'hui, ce sont par exemple 700 modèles qui sont annoncés ou qui ont été lancés, qui sont disponibles, compatibles
la
5G.
La quasi-totalité des modèles aujourd'hui sont 5G.
Exactement, oui. Les fabricants de smartphones ont suivi et se sont mis vraiment à jour pour proposer rapidement ces terminaux. Ce qui manque peut-être aujourd'hui, ce sont les services qui utilisent qui exploite pleinement la 5G. En tout cas, voilà, ça progresse très vite. En Europe, on est déjà à 63 millions d'abonnés. Selon Ericsson, eh bien, c'est la France et la Suisse qui ont les meilleures couvertures en 5G. Donc voilà, si vous captez pas très bien la 5G, ben, sachez qu'ailleurs, c'est moins bien que chez nous. Donc on peut s'en féliciter. Voilà, on a 63 millions.
Arrêtez de vous plaindre, en gros, c'est ça. Hein.
Exactement.
Voilà,
Français et Suisse, ne vous plaignez pas. On a une très bonne couverture. En Amérique du Nord et en Asie, on est déjà à 35% d'abonnements 5G. Donc la 5G va continuer à progresser. La 4G, on est à plus de 5 milliards d'abonnés, évidemment, au niveau mondial. Mais on devrait atteindre, selon Ericsson, le pic en fin 2022, hein, d'ici la fin du mois prochain, avant de décliner progressivement. Cette 5G, elle va nous servir à quoi? Alors, principalement, évidemment, à faire de la vidéo, à regarder de la vidéo. Ce sera 80% du trafic 5G, eh bien, qui sera utilisé pour de la vidéo. Ça, ce sera à horizon 2028. Mmh. Ericsson estime qu'on consommera en moyenne 52 gigaoctets de données par mois.
Avec la 5G.
À horizon 2028, avec la 5G. Aujourd'hui, on est à 13 gigas en France. Donc, on va, grâce à la 5G, on va consommer 4 fois plus de données d'ici 2028. C'est en tout cas la prévision d'Ericsson. Reste à savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce que ce seront des données intéressantes? Est-ce qu'on aura du contenu et des applications qui exploiteront vraiment la 5G? Là, on attend les développeurs sur ce sujet.
Après, bon, il faut prendre avec des pincettes cette étude qui est réalisée par un équipementier qui vend des équipements 5G aux opérateurs télécoms.
Donc,
ils vont pas nous dire que la 5G ne marche pas. En fait, en gros, c'est ça. Mais bon, hein, on peut dire qu'ils sont relativement neutres.
Fonctionne assez.
Parfait. Merci beaucoup, Frédéric Bianchi. C'était pour donc l'actualité de ce jour. Vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant. Évidemment, à partir de 22h, vous retrouverez la diffusion de cette émission sur la chaîne Tech & Co, sur les box opérateurs et puis les podcasts audio, replay, vidéo qui vous attendent, bien sûr. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, comment inciter les jeunes, alors tous les jeunes, mais aussi et surtout peut-être les défavorisés, et puis les jeunes femmes à se lancer dans ces métiers que tout le monde demande, c'est-à-dire la programmation, le développement, le codage. Vous savez qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de recrutement dans ces domaines. Alors évidemment, il y a pas mal d'initiatives. On se focus ce soir sur l'une d'entre elles, et c'est Amazon qui est à l'origine de Amazon Future Engineer. Et on va en parler avec nos invités. Olivia Ayot, bonsoir Olivia.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du programme Amazon Future Engineer en France, qui est un programme très intéressant, vous allez nous le présenter dans un instant. Et puis Thomas Bourguet, directeur général adjoint de Tralalair. Voilà.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les deux. Olivia, donc Amazon, qu'on connaît dans le cloud, dans le commerce, les séries, les films, etc. Eh bien, à ce programme de Amazon Future Engineer, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Ça fait 2 ans qu'il existe en France.
Exactement. C'est un programme qu'on a lancé en septembre 2020. C'est en fait un programme d'égalité des chances. Et notre objectif, c'est de permettre à un maximum de jeunes, et en particulier ceux éloignés du numérique, donc les jeunes issus de l'éducation prioritaire et les jeunes filles, de s'initier au code informatique et de découvrir toutes les opportunités du numérique.
Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie fracture. Vous l'avez repéré, ça. C'est-à-dire qu'il y a des écoles où il n'y a pas assez d'équipement numérique, il n'y a pas assez de sensibilisation à ces enjeux, je dirais, d'emploi de demain, finalement.
Exactement. En fait, le numérique représente les emplois de l'avenir. Et l'objectif, c'est d'initier ces jeunes dès le plus jeune âge, de venir les sensibiliser, leur donner accès à toutes les clés pour qu'ils puissent, pourquoi pas, bâtir une carrière dans ce domaine.
Alors, Amazon Future Engineer existe en France depuis 2 ans. C'est une initiative locale ou ça existe dans d'autres pays?
Alors, ça existe dans d'autres pays, comme par exemple aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni. Mais c'est une initiative 100% française qu'on a conçue avec des partenaires français, donc notamment Tralalair, pour vraiment répondre aux besoins du système éducatif français, donc au plus près des besoins des élèves et des enseignants.
D'accord. Avant de parler de Tralalair et puis donc de ce Citizen Code Python que vous avez lancé il y a un mois, un mot sur le bilan de ces 2 premières années. Qu'est-ce que vous avez activé comme levier justement de promotion, de sensibilisation au numérique auprès de ces élèves en difficulté ou de ces enfants, de ces ados en difficulté?
Alors, on a deux types de leviers. La première partie, c'est tout ce qui est initiation technique. Donc, concrètement, nos partenaires associatifs vont se rendre dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour proposer des ateliers d'initiation au code informatique et à la programmation.
C'était sympa parce que je crois que l'année dernière, on en avait parlé. On avait reçu, je crois, des petits robots.
Enfin, exactement.
Il y avait des choses comme ça parce que l'idée, c'est de rendre ludique tout ça. Et on a des robots qu'on assemble mécaniquement et qu'on programme pour qu'ils fassent des actions. Et effectivement, tout ça, c'est très sympa et c'est ludique.
Exactement, c'est tout l'enjeu du programme, c'est de montrer que le code informatique, c'est pas quelque chose de complexe, c'est pas quelque chose où on est enfermé chez soi derrière un ordinateur, mais que ça peut toucher tous les domaines et que ça peut être hyper amusant. Donc ça, c'est le premier volet, vraiment la partie initiation au code. Et le second, qui est tout aussi important, c'est la représentation des métiers du numérique. Donc là, on va proposer à des collaborateurs d'Amazon de se rendre dans les établissements scolaires pour partager leur parcours, leur expérience et pourquoi pas inspirer des jeunes. Et à côté de ça, on va aussi accueillir des jeunes dans nos bureaux, notamment pendant des semaines de stage de troisième, où chaque année, on accueille une centaine d'élèves de réseaux d'éducation prioritaire pour découvrir le code informatique, mais aussi tous les métiers d'une entreprise de la tech.
Et alors aujourd'hui, vous avez sensibilisé combien de jeunes en deux ans ? Vous avez des chiffres ?
Oui, on a des chiffres. Donc en deux ans, ce sont plus de 290 000 jeunes en France qui ont pu bénéficier de nos activités de code informatique, de stages de troisième ou encore de programmes de bourse et de mentorat.
Mais ça doit être sympa parce qu'en deux ans, vous avez dû, alors pas 290 000 parcours, mais peut-être en repérer quelques-uns qui, grâce à vous, en fait, ont décidé de se lancer dans ces métiers du numérique. Vous avez sans doute suscité des vocations. Forcément, statistiquement, c'est obligé.
Exactement. C'est l'objectif, c'est de initier ces jeunes et qu'ils puissent, s'ils le veulent, pouvoir avoir accès à ces métiers. Et on a des histoires hyper sympas de jeunes, soit notamment des jeunes filles qui au début me disaient « Ah non, je ne suis pas capable, le code c'est hyper dur, etc. » Et juste en étant avec elles, en les accompagnant un peu au début, elles se sont rendues compte qu'elles y arrivaient tout aussi bien que les garçons. Ou d'autres jeunes qui étaient déjà hyper forts en code, mais qu'ils ne soupçonnaient pas du tout que c'était des métiers qui leur étaient accessibles et qu'ils pouvaient se professionnaliser dans ces métiers.
Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous disiez, il y a des collaborateurs d'Amazon qui vont devenir mentors en fait, de jeunes et qui vont être là à leur disposition pour répondre à leurs questions, pour leur faire visiter des locaux d'Amazon, montrer un peu comment vous travaillez, mais aussi leur faire bénéficier de leur réseau. C'est intéressant ça aussi.
Exactement, en fait on a un programme de bourse et de mentorat dédié à l'accompagnement de jeunes filles. Donc chaque année on va accompagner 30 jeunes filles qui vont poursuivre leurs études en école d'informatique. Et donc on va financer leur scolarité, mais surtout ce que vous disiez, on va leur proposer l'accompagnement d'un mentor ou souvent d'une mentor de chez Amazon qui va pouvoir les coacher, leur donner des conseils, les aider dans la rédaction de leur CV, à trouver leur premier stage et aussi leur donner accès à un réseau de professionnels pour poser des questions et pourquoi pas initier leur carrière.
Est-ce que c'est gratuit ce que fait Amazon dans ce domaine-là ? Parce que, évidemment, vous investissez de l'argent. Pas que, on le voit, il y a un vrai investissement. On va dire, vous êtes patronne de ce Amazon Futur Ingénieur et vous vous occupez que de ça. Donc, c'est quelque chose quand même d'important. Est-ce que c'est gratuit ou, mine de rien, vous vous dites, on est en train de former les ingénieurs de demain qui, peut-être, arriveront chez Amazon ? Finalement.
Alors c'est un programme d'égalité des chances, donc il est 100% gratuit et ouvert à tous. Et justement, ce qu'on met à disposition de nos partenaires associatifs, des établissements scolaires et des élèves, ce sont des moyens matériels, donc parfois des ordinateurs, des petits robots pour les différentes activités, mais aussi des financements pour que les contenus développés avec nos partenaires associatifs puissent être accessibles gratuitement et à tous.
D'accord. Mais après, est-ce que vous pourriez embaucher par exemple des jeunes qui, grâce à vous et grâce à leur cursus, d'études, match avec ce que les profils que vous recherchez. Est-ce que vous pourriez embaucher ces futurs jeunes dans quelques années ?
Alors pourquoi pas ? C'est pas l'objectif du programme, l'enjeu du numérique dépasse Amazon. Dans toutes les entreprises, on aura besoin de ces talents. Mais pourquoi pas s'il y en a qui souhaitent ensuite se
Oui, vous gardez pas les meilleurs sur le côté pour qu'après vous puissiez les embaucher.
Non, c'est vraiment un programme hyper long terme. Ça commence du primaire, donc dès 6 ans jusqu'à 25 ans. Donc...
C'est un investissement sur le long terme, en effet. Thomas, tralalère. Alors, dans un instant, on va parler de Citizen Code Python, qui est le nouveau chapitre de ces Amazon Futur Ingénieurs. Mais auparavant, présentez-nous tralalère, dont vous êtes le directeur général adjoint, Thomas.
Alors, tralalère, en quelques mots, on est à la fois un producteur et une agence digitale. Et ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de l'edutainment, en fait, c'est-à-dire education and entertainment. C'est-à-dire, c'est voir comment est-ce qu'on peut rendre accessible tout plein de sujets qui, parfois, sont un peu difficiles, comme justement le coding. Et c'est ça qu'on fait avec Amazon Future Engineer là-dessus. Et souvent, on est sur des thématiques qui sont sur le digital. C'est, on va dire, c'est apprendre le digital par le digital, souvent. Voilà, c'est autour de la transformation digitale, ce genre de sujet.
C'est-à-dire que vous prenez des sujets qui sont boring, enfin boring...
Si, c'est ça.
C'est un peu ça. Et vous les rendez un peu sexy en ajoutant cette couche de ludique, en quelque sorte, qui fait que, bah voilà, il y a des gens qui n'étaient pas forcément susceptibles de s'y intéresser et qui vont se plonger dedans parce qu'il y a justement cette gamification, en quelque sorte.
Oui, c'est exactement ça, quel que soit le sujet, parce qu'on ne travaille pas que sur le coding, on peut faire des mathématiques, de l'anglais... plein de sujets différents, mais là, donc là, en l'occurrence, c'est le coding, et on voit que le coding, souvent, il y a les gens, ils ont un peu de mal à y aller. On n'est pas sûr qu'on sera capable de le faire, etc. Les jeunes filles parfois se disent que c'est pas fait pour elles. Ceux qui sont un peu plus vieux se disent, ah, je suis trop vieux pour le faire. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des expériences digitales qui donnent vraiment envie, qui soient faciles, accessibles et qui soient vraiment engageantes. En fait, c'est vraiment ça l'esprit.
Et dès le plus jeune âge, on peut être sensibilisé au codage.
Oui. Et j'ai envie de dire dès le plus jeune âge et puis même à un âge avancé. Alors, je vais pas donner forcément d'âge, hein, je vais peut-être pas me risquer à ça, mais c'est vrai que sans aucun problème, de 7 à 77 ans, en fait, vraiment, voilà, le coding, il peut y avoir un côté très fun, et c'est vraiment ça qu'on pousse, c'est le côté fun, et en même temps, on veut montrer que, voilà, c'est intéressant, c'est la culture générale aussi. Aujourd'hui, tout est digital, tout ce qui nous entoure est digital. Et voilà, donc nous, on encourage tout le monde. Enfin, c'est un peu ça notre combat. Et c'est là aussi on se retrouve avec Amazon Future Engineer. On avait ces objectifs communs. On s'est retrouvés. Voilà, on s'est dit, ben voilà, c'est une mission qu'on lance ensemble là-dessus. Et pour l'instant, voilà, pour le meilleur, parce que ça se passe très bien.
Voilà. Alors, parlez-nous, Olivia, de ce Citizen Code Python que vous avez mis en place avec Tralalair.
Alors l'objectif, c'était justement, bah, après ces 290 000 jeunes bénéficiaires du programme, c'était d'aller plus loin et de faire en sorte que un jour, chaque jeune en France puisse bénéficier des ressources pour se former, s'initier au code informatique. Et donc l'objectif avec Citizen Code Python, c'était justement d'allier le côté hyper ludique, gamifié de l'expérience de Tralalair avec le côté plus pédagogique et donc s'assurer que les notions acquises dans l'expérience Citizen Code Python répondent aux objectifs de l'éducation nationale. Et c'est un pari gagné parce qu'on a à la fois des super retours des élèves qui sont hyper contents de pouvoir progresser, de gagner, de mettre à jour leur avatar, de construire leur ville, etc. Mais aussi des très bons retours d'enseignants qui nous disent bah, merci, grâce à vous, j'ai réussi à intéresser mes élèves à l'apprentissage du code.
Donc vous mettez en ligne, parce qu'on va rentrer dans le concret, hein. Et c'est ça qui est intéressant, et ça va peut-être vous intéresser à vous qui nous regardez, parce que là, dès maintenant, vous allez pouvoir allumer votre PC, votre Mac et ou votre tablette même. Je pense que ça marche sur les tablettes.
Exactement.
Et de lancer en fait cette ce soft qui est sur un navigateur.
Ouais.
Et c'est complètement gratuit.
C'est entièrement gratuit.
C'est pour tout le monde.
À tout le monde.
Il faut pas de compte Amazon. Ça a rien à voir avec
Amazon.
Voilà. Et à partir de là, donc je me connecte. Qu'est-ce qui se passe?
Vous vous connectez, vous pouvez commencer à choisir votre avatar et vous êtes guidé. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est l'approche mise en place par Tralalair. C'est vraiment cet apprentissage pas à pas qui fait que n'importe qui, et on l'a testé avec des élèves qui n'avaient jamais touché d'ordinateur au début, n'importe qui est vraiment pris par la main au début avec des petits tutoriels et va pouvoir progressivement développer des compétences. Donc soit en Blockly, qui est un langage hyper simplifié de programmation par bloc. Donc c'est comme des petits puzzles qu'on va prendre, glisser, déposer. Et au fur et à mesure, on va basculer sur un langage plus complexe, qui est le langage Python. Donc c'est un langage scripté, et c'est celui qui est enseigné au lycée.
Et avec Python, c'est un peu le codage un peu que tout le monde veut actuellement,
c'est ça.
Si on est bon en Python,
c'est un des principaux langages les plus demandés actuellement. Et voilà. Et donc là, on est vraiment sur une approche pas à pas là-dessus. Et voilà. Donc tous ceux qui vont sur futureengineer.fr, ils créent leur compte, et, comme le disait Olivia, voilà, c'est gratuit. C'est très, très ludique. C'est presque comme des jeux de puzzle ou de réflexion. Et voilà, c'est vraiment... La progression pédagogique se fait vraiment pas à pas dessus. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup, finalement... Au départ, on l'a fait pour des ados, enfants-ados, on va dire. Et il y a beaucoup, finalement, de parents, par exemple, qui s'y mettent et qui se prêtent au jeu, finalement.
C'est drôle.
Et donc, c'est en ça que, voilà, c'est... C'est là où ça fonctionne très bien. Et c'est pour ça qu'on est très, très content là en ce moment avec Olivia, parce que les retours qu'on a sont ultra positif.
Mais jusqu'où on peut aller avec, avec cette, ce service? Est-ce que, en quelques heures, on peut avoir les rudiments de la programmation, ou il ne faut pas quand même exagérer, voilà, c'est simplement une sensibilisation à une méthode de réflexion, en quelque sorte.
Oui, ça reste quand même de la sensibilisation en 30 heures, parce que c'est à peu près ce qui bon, on a une saison 1 là, qui vient de sortir, la saison 2 sort dans une semaine sur le projet, ils vont peut-être passer une trentaine d'heures dessus, ils vont avoir les bases de la base, comprendre ce que c'est que l'algorithmie d'une certaine manière dessus. Après, on ne va pas faire le niveau d'ingénieurs en informatique qui ont fait 5 ans d'études en 30 heures, ça c'est impossible. En revanche, voilà, bien comprendre comment ça fonctionne, avoir les bonnes bases pour pouvoir se développer derrière, ça oui, complètement.
Et se dire, Olivia, ça me plaît, je vais en faire mon job, en
quelque exactement
sorte. Et après, choisir,
c'est ça.
Choisir un cursus pédagogique.
Oui, c'est ça, et je me sens capable, si ça m'intéresse, de pouvoir me projeter dans ces métiers. Et alors, c'est tout l'enjeu.
Ça a été lancé il y a un mois.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez déjà des retours ou pas?
On a déjà des très bons retours. On a déjà plus de 18 000, c'est ça, utilisateurs.
Ouais.
On a franchi le cap. On est hyper contents parce qu'on s'était fixé un objectif à 10 000, qui était déjà hyper ambitieux. Et en fait, grâce au bouche à oreille, on a des très bons retours. Bouche à oreille entre les élèves, mais aussi entre les enseignants, ce que tu me racontais.
Oui, oui. Voilà, on a beaucoup de demandes actuellement. Et on est très sollicités dessus. Et ça nous a pris de court un petit peu. Voilà, on ne pensait pas que ça se développerait autant. Mais ça montre aussi qu'il y a un vrai besoin sur le sujet. Et voilà, ça répondait à un besoin où il n'y avait pas forcément beaucoup de produits, finalement, sur le sujet de ce type-là.
Voilà, on n'a pas beaucoup évoqué les enseignants, mais ils sont au cœur, évidemment, de tout cela, parce que c'est eux qui vont promouvoir, en fait, cette envie de se lancer dans la programmation, de promouvoir peut-être, justement, ce que vous proposez. Donc voilà, on les salue et on sait qu'ils font le maximum, justement, pour faire découvrir tous ces nouveaux métiers à leurs élèves. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Olivia Ayo, donc responsable du programme Amazon Futur Ingénieur en France, et Thomas Bourguet, directeur général adjoint de Tralalaire. Et c'est donc Futur Ingénieur, tout simplement,
www.futuringénieur.fr
pour tester, pour voir, écouter si le codage vous intéresse. Voilà, peut-être qu'on va vous susciter des vocations ce soir. On vous le souhaite en tout cas. Vous restez avec nous, Tech&Co revient dans un instant, juste après le journal de Faïza Younsi. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, pour terminer ce Tech & Co focus sur le CITC et l'IoT Week du CITC, dont c'est la 6e édition. Alors vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer avec nos invités et Chekib Garbi qui est avec nous. Bonsoir Chekib.
Bonsoir.
Directeur général du CITC, donc qui mieux que vous pour nous expliquer ce dont il s'agit? On va en parler dans un instant. Margot Coréard aussi est là avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Co-fondatrice de Diagrams Technologies. Et Romain Dénin, cofondateur de Biotheos.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes tous les trois Lillois. Et merci le TGV, parce que c'est vrai que depuis qu'il y a le TGV, en une heure, vous êtes à Paris. Et merci d'être venu nous voir sur le plateau de Tech & Co, même si on adore venir vous voir. Et je me souviens très bien d'une émission qu'on a fait ensemble, justement, à Eura Technologies. C'était l'année dernière. Chekib, donc, vous êtes dans Eura Technologies. Qu'est-ce que c'est que ce CITC dont vous êtes le directeur général?
Le CITC, c'est un peu le cousin d'Eura Technologies. C'est-à-dire que ça a été créé au même moment, en 2009, sous l'impulsion de la région, de l'État et de l'AMEL. Donc, le même modèle qu'Eura Technologies, mais avec une vocation particulière qui est d'accompagner les startups, les entreprises, sur le côté technologique. Donc, c'est un centre d'innovation. Dans mes équipes, ce sont des ingénieurs, des docteurs ingénieurs, donc, et qui apportent des soutiens technologiques aux startups, entre autres. Et on apporte aussi des moyens mutualisés. C'est ce qu'on appelle un centre de ressources technologiques. Et aujourd'hui, on est un pôle européen d'innovation reconnu par l'Europe.
D'accord. Avec un peu plus de hardware, par exemple, Eura Technologies.
On est purement dans le hardware. Historiquement, c'était le premier cluster dédié à l'Internet des objets créé en 2009 en France.
L'IoT Week, bien sûr.
D'où l'IoT Week qui s'inscrit, voilà. Tout à fait.
D'accord. Donc, sixième année. J'imagine que, voilà, maintenant, c'est bien rodé, cette histoire-là. Cette IoT Week a lieu du 5 au 9 décembre 2022, donc sur le site d'Eura Technologies, mais aussi dans plusieurs autres villes des Hauts-de-France. Hein, c'est ça
tout
qui est intéressant.
Fait. Au Touquet, à Boulogne-sur-Mer, il y a des manifestations qui vont se dérouler encore sur Amiens. Enfin, l'idée est vraiment de rayonner sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France en particulier, et d'avoir une vision, de partager des visions différentes, d'amener du débat. On va parler de souveraineté, on a différentes visions de souveraineté, donc définir une troisième voie, pourquoi pas européenne, au titre de la souveraineté. On va parler de cyberespionnage.
J'ai l'impression aussi qu'il y a quand même une dimension pédagogique dans ce que vous faites, c'est-à-dire que vous allez vous expliquer les choses, ce qui peut nous paraître à nous... facile parce qu'on baigne là-dedans, mais finalement pour le quidam, ce qu'est un objet connecté, c'est pas facile. Parler de souveraineté, c'est un sujet qui peut être un peu qui peut nous dépasser. Il y a aussi cette dimension pédagogique.
Il y a une dimension pédagogique vers des acteurs aussi qui ont besoin de pédagogie. En l'occurrence, il y a des représentants de collectivités locales, des élus.
Bien sûr.
Et il est nécessaire de les sensibiliser, de leur expliquer aussi tous les enjeux qui découlent de ces technologies-là du quotidien.
La transformation numérique, elle est pas partout. Hein.
Et à la transformation et la question de la gouvernance aussi, et de notre enjeu social, éthique. On va évoquer l'impact, c'est un numérique à impact, un numérique beaucoup plus responsable. Et donc, c'est un peu le sujet de l'IoTV. Il y a des chercheurs qui vont s'exprimer, des chefs d'entreprise, des politiques. Et l'objet est vraiment un lieu d'échange, de prospective et de vision pour le territoire.
Avec quatre grands thèmes cette année, le climat, la souveraineté, l'économie bleue et les mutations.
Tout à fait. Les mutations économiques, les nouveaux modèles économiques, la seconde vie, en l'occurrence, les nouveaux modèles autour de la seconde vie des équipements numériques.
Donc tout ce qui est reconditionné.
Tout ce qui est reconditionné. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur une structuration d'une filière autour du reconditionnement qui devient... D'accord. On bascule de l'économie sociale et solidaire à un monde beaucoup plus business, pour le coup. On va parler d'économie bleue, parce que l'eau... et c'est la première année qu'on ouvre ce sujet autour de la question de l'eau, du stress hydrique. Fabriquer un PC, c'est une tonne d'eau. Ça repose aussi la question de la fabrication des PC, de la durée de vie des PC, de l'allongement des PC. On va parler de souveraineté, on va parler de cyberespionnage avec des représentants du ministère de l'Intérieur qui vont intervenir sur ce sujet en particulier. Et de troisième voie sur la souveraineté numérique. On connaît deux voies particulière, celle plutôt américaine, une autre plutôt asiatique, et puis on va essayer de travailler sur une troisième voie beaucoup plus européenne.
Alors, vous récompensez des startups durant cette IoT Week, c'est ça aussi ?
Tout à fait. On récompense des startups. Encore ce matin, on a récompensé des startups qui ont répondu à un de nos appels à projets sur le sport et les solutions connectées, donc avec des prix de 10 000 euros. Le 5, on a des pitch startups. On a sélectionné 10 startups françaises, bien au-delà de la région des Hauts-de-France, et qui vont aussi pitcher devant des investisseurs et finir par un petit match de rugby entre eux, parce que c'est la thématique. Chaque année, on leur donne un exercice particulier. Il y a un an, ils devaient pitcher en mode stand-up. Ils ont été coachés.
Un peu à la TEDx.
Stand-up, c'est vraiment...
Ah oui, vraiment, avec des petites blagues et
avec
tout.
Avec des petites blagues, un peu à la
Jamel Debbouze. Hein.
Et donc, ils ont été coachés pour ça. Et cette année, c'est la thématique du rugby. On va rentrer dans la Coupe du Monde du rugby. Donc, ils avaient comme exercice de pitcher avec le vocabulaire du rugby. Et on a comme parrain Michalak. Donc, Frédéric Michalak. Donc, voilà un peu les thématiques.
Ça va. Puis, Michalak, on peut dépenser les calories qu'il fabrique en faisant du rugby après. Ouais. Alors, deux startups, vous parliez de pitch. Si on laissait la parole aux deux startups qui sont venues nous voir ce soir, on va commencer par vous, Margot. Donc, et Diagramme Technologies, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que anticiper les défaillances de production et les, on va dire, les premiers dysfonctionnements de machines pour, par exemple, des industries, pour les secteurs entiers, c'est vital. C'est ce que vous faites chez Diagramme ?
Exactement. Notre métier, nous, c'est de prendre soin à la fois de l'outil de production, mais aussi des équipes de maintenance qui sont là pour assurer le bon fonctionnement de ces équipements au quotidien. Et pour faire ça, donc nous, ce qu'on vient faire, notre innovation, c'est de venir analyser les données que personne ne regarde aujourd'hui. Donc, on ne rajoute pas de capteurs. Et pour autant, en fait, nativement, tous les équipements industriels ont plein de capteurs déjà intégrés, qui ne sont pas exploités. Et donc, nous, on vient récupérer ces informations-là, les croiser avec tous les logiciels métiers qui sont déjà déployés dans les usines. Et on a une technologie propriétaire qui nous permet de trouver justement des corrélations dans tous ces éléments-là pour détecter le plus tôt possible un dysfonctionnement, expliquer quel est le problème, donc poser un diagnostic et surtout anticiper quand est-ce qu'il va y avoir un problème.
Je donne un exemple, mais il est peut-être faux, mais admettons qu'il y a un capteur de température sur une machine et que d'un coup, la température s'élève anormalement, de manière régulière, etc. La machine ne va pas détecter qu'il y a un souci, mais vous allez détecter qu'il y a les prémices de quelque chose qui sent pas bon, quoi.
Exactement.
En gros, c'est ça.
Et souvent.
C'est un exemple, mais il y en a, j'imagine, des centaines d'autres.
Oui,
hein.
Oui. Et puis, souvent, c'est pas uniquement sur un seul capteur. C'est une multitude de petits signaux faibles qui est difficile de voir à l'œil nu. Et donc, nous, tout l'enjeu, c'est de venir trouver ça. Et quand on parle de défaillance, on parle de défaillance mécanique, mais aussi de la surconsommation d'énergie. On en parlait tout à l'heure. L'objectif, c'est de s'assurer qu'un équipement, un outil de production, quand il est utilisé, il va pas gaspiller de l'énergie et de la matière première parce qu'il est mal réglé. Nous, on est là aussi pour apporter cette information-là de dérive, de surconsommation d'énergie et tout ça pour que les équipes sur le terrain puissent planifier leurs interventions, travailler dans de bonnes conditions et ne pas être en mode pompier pour réagir suite à une panne.
Et oui, la prévention, c'est
exactement
l'idéal, en quelque sorte. Mais donc, vous vous pluguez sur le soft de ces machines, c'est ça ?
Sur les automates industriels, c'est ça.
D'accord.
On vient récupérer ces données-là.
Ces données-là, que vous analysez. Que...
Exactement. Voilà. Nous, on est une spin-off du centre de recherche INRIA. Donc, il y a eu plusieurs années de R&D sur le sujet. Donc, INRIA, c'est le centre national de recherche en sciences du numérique et en intelligence artificielle. Et donc, du coup, voilà, nous, on vient faire de la data science appliquée au secteur industriel. On ne fait que ça. Et on connaît très bien tous les challenges liés à la donnée industrielle, qui est souvent pas très propre, souvent bruité, et donc il faut des méthodes particulières pour venir retrouver un peu l'aiguille dans la botte de foin.
Et vous en êtes où chez Diagrams ? Vous avez déjà des clients ? C'est quelque chose qui fonctionne, qui roule, entre guillemets ?
Qui tourne, exactement. Aujourd'hui, on est 12 personnes, on a créé l'entreprise il y a 3 ans, on a commencé à déployer notre solution dans le secteur de l'énergie, on suit par exemple des lignes d'incinération de déchets pour détecter des pannes sur différents organes, on a signé des contrats chez des clients dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, on commence à travailler dans la défense aussi. Donc on est en plein développement commercial.
Très bien, ça s'appelle Diagrams, donc, et vous êtes basé
à Lille,
exactement. Voilà. Deuxième start-up que Shekim nous a apporté sur le plateau de Tech & Co, il s'agit de Biotheos. Rebonsoir Romain, vous en êtes le cofondateur, Robin Denain. Alors expliquez-nous, là aussi, vous êtes venu avec un petit... une petite fiole, en quelque sorte, avec un produit. J'imagine que vous n'allez pas le boire, parce que je ne sais pas si...
Non, c'est, pas du tout.
C'est pas, on ne peut pas le boire, ce truc-là. Je disais ça, je plaisantais, parce que je le sais, c'est des algues à l'intérieur.
Tout à fait.
Alors expliquez-nous ce que vous faites
chez
Biotheos.
Chez Biotheos, on est parti du constat que chaque année dans le monde, il y a environ 9 millions de personnes qui meurent uniquement à cause de la pollution de l'air. Et on s'est dit qu'il y avait
9 millions de personnes qui meurent
uniquement à cause de la pollution de l'air.
Incroyable.
C'est les morts prématurées, c'est le fait qu'on perde 3 ans d'années d'espérance de vie à cause de la pollution de l'air. Et suite à tout ça, on a pu voir en fait que les microalgues ont une capacité, c'est d'absorber certains polluants atmosphériques pour se développer. C'est donc en combinant nature et technologie qu'on a réussi à créer une technologie brevetée qui nous permet de mettre en relation de l'air pollué avec les microalgues. Les microalgues captent les polluants et ressortent de l'air plus pur. On a installé ça dans une première machine qui fait 2 mètres de haut, 80 cm de large, qu'on a mis en place dans le métro de Lille. Et on a fait un test pendant à peu près 4 mois. Là, en ce moment, on analyse les résultats et les résultats seront officiels à partir de janvier prochain. Ils seront publiés sur le site de la MEL.
Mais vous avez déjà des petits bouts de résultats quand même. Parce que là, vous me dites, on va attendre quelques semaines pour les résultats. Mais j'imagine que vous avez fébrilement regardé les premiers résultats. Ça a l'air positif ?
On avait déjà fait des tests en enceinte contrôlée, ou qui étaient très positifs. Et moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui sur les résultats qu'on a fait dans la MEL, c'est que déjà, les microalgues se sont très bien développées. Elles ne sont pas mortes à cause de la pollution. Elles se sont très bien développées.
Et donc, si elles se développent, c'est plutôt bon signe, en fait.
Tout à fait.
Ça veut dire qu'elles se nourrissent de cette pollution.
C'est ça.
Voilà, et qu'elles prospèrent.
Voilà, en fait, elles vont capter certains polluants, elles vont absorber certains polluants, c'est-à-dire qu'elles vont les décomposer et ressortir de l'oxygène. Par contre, il y a certains polluants qu'elles vont juste
emmagasiner
et tomber au fond de la cuve pour justement les éviter qu'ils partent à l'extérieur.
Et donc après, il faut récolter ces polluants.
C'est ça. C'est ce que nous, on fait. Donc, tous les mois, il faut qu'on change la cuve de microalgues.
D'accord.
Donc, on a une cuve...
Ça ne doit pas être joli ce qu'il y a dans cette cuve-là, hein.
On va dire que c'est un mélange de beaucoup de choses.
C'est super votre truc. Mais alors pourquoi là c'est à l'état liquide ? Ces algues sont à l'état liquide ou solide ?
Alors c'est des...
Comment vous installez ça dans le métro en fait ?
Donc c'est une colonne qui fait 2 mètres 30 de haut, 80 cm de large. Dedans on a une cuve qui fait 100 litres de microalgues qu'on installe donc avec un process qui est plugué dessus. et on fait tourner la machine. Donc c'est une machine qui est visible. On a voulu rendre ça visible parce que la qualité de l'air, c'est très abstrait. Donc on a voulu rendre ça visible dans le métro de Lille. D'ailleurs, il y a peut-être des images qui tournent en ce moment. Et à côté de ça, on a développé aussi une gamme pour les bureaux. Parce que travailler avec les marchés publics, ça prend du temps. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on ait quand même un chiffre d'affaires qui arrive. Et donc là, aujourd'hui, on a développé une gamme pour les bureaux plus petite, qui fait 1m60 de haut, 50 cm d'emprise au sol, et qui est destinée pour tout ce qui est espace type bureau, open space, cafétéria, etc.
Parce qu'en fait, vous vous focalisez sur la pollution de l'air intérieur, on est d'accord?
Exactement, c'est ça.
Parce qu'il y a deux types de pollution. Il y a la pollution de l'air extérieur, qui est liée à la pollution des usines, des épandages parfois aussi à Paris, hein, ça arrive, hein, on a en fait des résidus de d'épandage qui viennent de l'est de la France, je crois, et donc là c'est vraiment l'air intérieur qui est vicié, c'est-à-dire qu'il faut, et c'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'il faut ouvrir les fenêtres.
L'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué qu'en extérieur. Et même dans les bureaux, on peut avoir des taux de composés organiques volatils, c'est tout ce qui est odeur. Ça, on peut avoir des taux qui sont 20 fois supérieurs à l'extérieur.
Mais on dit les plantes vertes, c'est cool. Mettez les plantes vertes un peu partout dans vos bureaux et tout, ça capte le CO2, etc. Ça recrache de l'oxygène. Ça suffit pas, en fait. C'est en complément de par exemple, de quelques plantes vertes qu'on peut avoir à la maison.
Alors, je vous avoue que les plantes vertes, ça va pas avoir une grande efficacité.
Ah zut.
Quand même la ventilation qui va être efficace. Maintenant, par rapport à des plantes vertes, je veux dire, on est beaucoup plus efficace que des plantes vertes, ça c'est sûr. On est l'équivalent d'un purificateur d'air.
Et donc, vos algues sont toujours à l'état liquide?
Oui, tout à fait.
Ça n'existe pas à l'état solide, ça ne peut pas être des algues, des plantes, quoi, en quelque sorte.
Non, ça peut être sous forme de pâte, mais sauf que ça restera toujours dans une forme quand même qui est liquide, de la boue. En fait, à la fin, quand on a cultivé nos micro-algues, on en ressort quelque chose de beaucoup plus concentré, donc c'est beaucoup plus foncé. Et à la fin, quand on enlève l'eau, là, ça fait une sorte de boue. C'est de la biomasse.
Parfait. On va suivre de près les résultats donc, de cette expérimentation dans le métro de Lille. Chiquib, le mot de la fin. Alors, évidemment, ils gagnent de la visibilité, etc. Qu'est-ce que vous apportez aussi à ces startups avec le CITC?
Un accompagnement, déjà, un accompagnement technologique, différents prix, une mobilisation de l'écosystème. Ce qui est important, c'est que les projets que les startups développent, c'est issu de la recherche ou travaille avec la recherche. Là, vous travaillez sur une chaire avec Bioteos pour le traitement, justement, de ces petites particules qui descendent au fond de la cuve pour en devenir des sédiments. Donc il y a tout un écosystème.
En recyclage, etc.
En recyclage, donc vraiment, on est complètement en économie circulaire. C'est toute cette dynamique, les financements liés à REF3. Il faut savoir que nous, dans la région des Hauts-de-France, on s'inscrit fortement et on a inscrit cette politique REF3 comme au cœur de notre réflexion et de notre dynamique économique. Donc voilà un peu ce qu'on peut apporter.
Et voilà cette IoT Week, c'est du 5 au 9 décembre 2022, donc à Lille et dans sa région. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Margot Correa, Romain Denain et Chekib Garbi, directeur général du CITC. Merci.
Merci. Merci et bienvenue à Lille.
Et bienvenue à Lille, forcément. Il ne fait pas trop froid en ce moment? Bon, non, ça Paris, va. C'est pareil. Hein, on est d'accord. Très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 20h sur BFM Business pour Tech & Co en direct à la radio, à la télé. Je compte sur vous. À demain et bonne soirée.